perturber ce calme. On y va. Bemidrash Erachama Ptirata. C'est bon les jeunes là ?
Parti.
Allez. Vayavo el Agoyim. Donc on a vu ça, c'était dans Yereskel, si je ne m'abuse. Il est venu chez les Goyim. Loa Metzarir Lomar, et là Vayavo, le verset aurait dû dire, ils arrivèrent, Kaviachol, si on peut dire, Meshach chez Galou Israël et Ben Aoumot. Si on peut s'exprimer ainsi, au moment où ont été exilés Israël parmi les nations, Aya Kadosh Borchou Marzir al Pitrem Lishmoa Maem Omrim, Kadosh Borchou allait de porte en porte pour écouter qu'est-ce que les Goïm disaient. Oma Ayu Omrim, qu'est-ce qu'ils disaient? Elohem Shenu Mazo Param et Parom Sisram San Ririv Kayot Sebaem. Il dit, le Dieu de ce peuple, s'en est pris à Pharaon, à Sisra, à Sanherim, et d'autres encore. Vérozrim v'omrim. Ensuite, il disait, Kaviachol iskinu advarim. Il dit, mais tout ça, c'est vieux. C'est la suite du verset. Im am Hashem ele lama me'artso yatsu. Si ça, c'est le peuple de Dieu, pourquoi ils sont partis de sa terre? Ben mechilta, le mechilta. Qui chamanou et taché rovish Hashem, mais yamsouf mipnechem. Ça, c'est qui sait qui dit chamanou et taché rovish Hashem, mais ayam, et mais yamsouf mipnechem. Qui sait qui dit ça? C'est où? Allez là, on bouge. Allez, Fifi.
Hein, quoi?
On bouge.
Oh, ah, ça, c'est dans. C'est Yoshua.
C'est Yoshua. Qui sait qui dit ça?
C'est quand elle revient là. C'est la femme Ahav, non, celle qui.
Elle s'appelle.
Quand ils vont les Merlim.
Elle s'appelle comment?
Isabelle. Non. Même on dit celui qui dit son nom plusieurs fois, il est.
Comment elle s'appelle?
Qu'elle avait sa mariée.
Alors, elle s'est mariée avec Yoshua.
Avec Yoshua, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Alors, Rachav.
Comme Michel est Rachav.
Ouais, d'accord. Ouais. On n'assiste pas. Ramim Bizinsis, mais pas nous. Allez, un bonbon.
C'est arrivé les Meraglim maintenant.
Ouais. Allez, une fraise tagada pour monsieur. Là. Allez. Ah, c'est un jour de bonheur là. Tu rigoles. On y va. C'est donc Rachav qui a dit ça. Quand Keshe En Israël au Simrot Selo Shel Makom, lorsqu'Israël ne fait pas la volonté du Créateur. Shemo mitralel baolam, son nom est profané dans le monde. Shenema, vayavo el goyim asher baou shama v'chalu et shem kochi ba'amor ba'amur lahem am Hashem ele umartzo yatsu. Comme dit le verset, il vint parmi les nations dans lesquelles ils arrivèrent, ils profanèrent son nom saint en disant, ça c'est le peuple de Dieu, et de cette terre ils sont sortis. Arelecha. Kishemo aliédé Israël Mekoudash. C'est-à-dire que le nom de Dieu est sanctifié par Israël. Ve eferze gamken, le contraire. Kishemo chazve shalom mechoulal. Le nom de Dieu est profané. Ke asher Israël enam noagim kerouille lorsqu'Israël ne se conduit pas comme il se doit. Boruch atu aduno yelouinu melech l'edom shakon midvoroy.
Amen.
Rabba Midrash, Midrash Vaikra Rabba. Vous pouvez remarquer en passant la connaissance faramineuse du Midrash qu'a le Maharal. Mais Midrash. Shtaim Shalti, deux choses j'ai demandé. Penesba Vekirashti. De peur que je sois rassasié. et que je nie Dieu, de peur que je sois rassasié et que je nie Dieu. Rabbi Lazar, Shal et Rabbi Hanina. Rabbi Lazar a demandé à Rabbi Hanina, Vedamri, y en a qui dit Rabbi Hanina, Rabbi Lazar. Efchar Ken. Rabbi Shal et Talmide. Et là, l'Obae et là, les Mifdeke. Est-ce que c'est le maître qui demande à son élève? Non, il a voulu le tester. Donc on voit là que Rabbi Hanina, c'est le maître de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il demande... Non, Rabbi Hanina, c'est le maître. Et c'est le maître qui demande à son élève. La question suivante, comment le maître pose la question à son élève? C'est il veut le tester. Amarle. Dendirtiv. Voilà ce qui est écrit. Shtaim shalti. Deux choses j'ai demandé. Rech vosher atitenli. La pauvreté et la richesse ne me donnent pas. Penesba vekirachti, de peur que je sois rassasié et que je nie Dieu. Eze même caché, arishona ou ashnia. Qu'est-ce qui est pire, la pauvreté ou la richesse? Amarle, il lui a dit, Matsinu sheviter akadosh bura la vodazara velo viter al chilul Hashem. Shenema, fatem bet Israel ish kilulav lechu avodu. On a trouvé que Dieu pardonne sur l'idolâtrie, mais ne pardonne jamais sur la profanation de son nom. Comme dit le verset, et vous, Beth Israël, allez continuer à faire vos idolâtries. Et le verset dit, Etchem Kochil, mais par contre, mon nom saint, ne profanez pas.
On parle d'autre chose, ça veut dire qu'on pourrait penser que la Avodah Zarah, c'est vraiment un Chilul Hashem par excellence, non?
C'est vrai.
Alors, quoi il pense si il exclut la Avodah Zarah?
Non. Non, c'est pas ça. La Avodah Zarah, c'est la base de tous les maux. Mais là, quelque part, tu fais un affront à Dieu. Fais un affront à Dieu. Bon, il peut dire, bon, tu me fais un affront, ok. On passe.
Ouais. Oui, c'est pas...
Mais la profanation du nom...
C'est pas vraiment une...
La profanation du... Excuse-moi. La profanation du nom, c'est comme on a vu la semaine dernière. C'est que Israël se conduit mal. Et se conduit mal ou par ses fautes est amené à être dans des situations basses. Cette bassesse, ça c'est c'est pas un affront, c'est pire qu'un affront, voilà. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est considéré pire qu'un affront. Shalom. C'est considéré pire qu'un affront.
Qu'un juif qui change de crèmerie complètement, bon, au moins il a quand il...
Non, ça peut être un Chilul Hashem, ça peut être un Chilul Hashem, évidemment. Non, l'Avodah Zara, ça veut pas dire forcément on peut être juif et faire Avodah Zara. Je sais pas, moi, un communiste, c'était une Avodah Zara,
ouais.
Si tu veux, c'est un affront à Dieu, voilà.
Donc un juif bouddhiste, c'est moins grave qu'un juif qui a la kippa sur la tête et qui ferait...
Et qui détend du fric, peut-être. Voilà. Non, l'un peut être l'autre. Par exemple, là, quand j'étais en Israël, j'ai acheté un livre sur la vie du Rivash. Vous savez qui c'est le Rivash? J'en ai peut-être parlé. Comment? Yitzhak Bar Shechet.
Un riche en algérien.
Voilà. Rabbi Yitzhak, voilà, là on est... Le club des Algériens. Voilà. Je suis parti de... Comment dire?
Il était d'où?
Il était d'Alger.
D'Alger. Mais oui. Mais oui. Non, il n'était pas d'Alger, il était à Alger. Alors, bon, c'est 1340.
Ah oui.
Non, il y a eu le 1391. Alors, le truc... Elle est bonne, tiens. Alors, le Rivage, c'est lui qui a organisé les bases du judaïsme algérien. Et là, quand j'étais donc en Israël, ils ont sorti une vie très, très, dans tous les détails, de Rivage. Et dans l'avion, j'ai lu, c'est en vérité, c'est absolument terrible. C'est un élève du RAN, et le judaïsme était très, en Espagne, était très florissant. En 1391, c'est pas très connu, on sait 1492, mais 1391, c'est la première vague des persécutions. Et ça a été le cataclysme. Après, ça a été la débâcle. Mais 1391, lui, il a fui. Il était où? Une seconde. Il était à Valence. Il était Rav de Valence. Il était Rav de Valence et il est parti. Il a fui, quoi. Et il y avait... Parce que... Qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens? C'était horrible. Ils rassemblaient tous les juifs et leur disaient, voilà, soit vous vous convertissez au christianisme, vous allez à la... on vous met de l'eau bénite et vous êtes machin, soit on vous tue. Mais il y avait des milliers. Donc il y avait des responsables communautaires pour éviter le massacre qui se convertissaient.
Montre l'exemple.
C'est... Regarde le cas de conscience. Le cas de conscience.
Ils pouvaient s'en aller.
Mais non, ils pouvaient. Ils pouvaient pas. Ils étaient enfermés. Le cas de conscience. T'as dans une ville la 5000 juifs. Ils ont, comme la Gestapo, rassemblé les 5000 juifs. Ah. Soit vous vous convertissez, on vous met de l'eau bénite, ou vous vous trempez dans la rivière, je sais pas quoi, on vous laisse tranquille, vous êtes chrétien, ou on vous tue. Il y en a qui disent, tuez-nous. Ils en ont tué 100, ils en tuent 200, ils en tuent 300, ils en tuent 400. Nous, qu'est-ce que tu fais? Alors, t'as des rabbanim? Et on se convertit.
Oui, pour la forme.
Non, attends.
Tu restes toujours juif.
Ça c'était le début du drame. Là, ça a été le début du drame. Les juifs d'Espagne. Parce qu'ils ont cru qu'ils pourraient. Et après, il y avait l'inquisition qui est venue. Ah, vous êtes chrétien. Alors vous faites Pâques, vous faites Shabbat, vous allumez les lumières de Shabbat. Et après, il y a eu les bûchers. Et après, ça a commencé les bûchers. Non mais regarde le cas de conscience. Le cas de conscience. Il y en a, il va dire comme toi, on fait ça pour la forme. Mais on évite un bain de sang.
Vous parlez des juifs maranes ou vous parlez des responsables communautaires qui doivent prendre la décision?
Responsables communautaires.
Pas très individuel, ça c'est trop.
Irresponsables communautaires. Mais moi, quand j'ai vu ça, c'est pas connu. Il y en a, ils pensaient, on évite le bain de sang. Parce que c'était simple. Et le mec, ils reçoivent l'eau bénite. Ouais. Seulement, ils sont chrétiens. Après, ils vont plus les lâcher. Après, ils vont plus les lâcher. C'est ça l'inquisition, c'est l'invention de l'inquisition.
À première vue, de manière très simple, nous, on sortirait la Gemara en disant
c'est
les trois choses qui.
Non, mais d'accord, quand. Après, il y a tous tes cousins, il y a tous tes tontons, tout est. C'était autre chose que les nazis. C'était autre chose que les nazis, mais c'est.
Voilà, c'est individuel.
Non, mais quand tu vois qu'il y a déjà 300 qui ont été tués devant toi. Et à toute ta famille, à tout. Parce que. Il y a toutes les yeshivas. Parce qu'ils avaient fondé des yeshivas. Tu avais 300 bachourim. Ils vont être tués, les 300. Alors c'est sur la halakha qu'il faut se laisser tuer.
Et ceux qui sont pas. Elle voit individuellement, elle voit. C'est ça.
Non, mais la, c'est sûr que la halakha, il faut se laisser tuer. Mais quand tu es dans des pressions comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est hallucinant. Des épreuves mais qu'on ne peut pas imaginer. Moi, avant de lire ça, je savais qu'en 1391, il y avait une première vague, mais je n'avais pas perçu la proportion. La proportion des... Et c'est comme ça que les rivages a fui, qu'il a fui, et lui, il a réussi. Alors ça, c'est les historiens n'arrivent pas à savoir comment il a réussi à fuir. Et certains disent que pour la forme, lui, il s'est truqué. Mais la plupart disent que non. On ne sait pas comment, peut-être avec quelqu'un qui l'a protégé, on ne sait pas. Il a fui et il est allé à Alger et il a mis sur pied. D'ailleurs, paraît-il qu'il y a encore à Alger la tombe du rivage. Et que c'est encore un lieu de pèlerinage. Voilà. Bon, maintenant, les Juifs ne vont pas dans ces contrées, ouais, mais ouais, hostiles. Mais ils disent pas le rivage, ils disent le ribache. Ouais. Évidemment, le ribache.
Le Tashbetz aussi.
Le Tashbetz à côté. Le rivage, c'est le Tashbetz. Un autre grand maître qui s'appelle le Tashbetz, Rabbi Shimshon ben Semar.
Duran.
Voilà. Mais là, c'est une profanation du nom, tu vois. Ça, c'est une profanation du nom. C'est parce que tu peux avoir quelque chose de ponctuel, mais la profanation du nom, c'est que ça entraîne les autres. La profanation du nom, ça entraîne. C'est pire qu'une faute individuelle. Bien, on continue. Alors, Bevadai, a Romer Razé Shesh Rilou Lachem, Alkol Achataim. Indubitablement, la gravité qu'il y a dans la profanation du nom sur toutes les fautes. Vézé, qui kacher Oved Avozara, Eno Rote, Bo Ilbara, Beatzmo, Rakshose, Eloa, Leatzmo. Alors, je traduis. Indubitablement, la gravité de la profanation du nom, plus que toutes les fautes. Car quand il fait l'idolâtrie, et no rote bo idbara, il ne faute pas contre Dieu véritablement, seulement il se fait un Dieu pour lui. Aval chilou l'Hachem, mais la profanation du nom, keilou chas veshalom en eloa. Mais là, c'est negi. C'est nier Dieu. Kacher shemo mechulal. Quand le nom de Dieu est profané, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Le fikar avera zot ou achet achamour. C'est la faute la plus grave. Va kacher mikol, la plus grave. Donc, varit bayer barichul maseret avot etzel. Chayara ba alchilu l'Hashem. Nous avons développé cela dans le commentaire sur Pirkei Avot au sujet. La bête sauvage vient sur la profanation du nom. C'est la faute la plus grande au-dessus de toutes les fautes. C'est la Gemara dans Maseret Yoma, dans le 8e chapitre de Yoma, que toutes les fautes peuvent avoir une expiation du vivant. Mais la faute qui ne peut pas être expié du vivant, c'est la mort qui fait expiation, c'est la profanation du nom. Ça veut dire, grosso modo, moi j'apprendrai de là, qu'est-ce qu'on a à faire dans notre existence. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ce qu'on a à faire, c'est sanctifier le nom de Dieu. Et le contraire, si on passe à côté de ce qu'on a à faire, c'est profanation du nom, chas v'shalom. Parce que là, c'est tout ce qui ressort de tout ce qui c'est comme on dit, voyez, quand quelqu'un est décédé, on dit Tov Shem et Shemen Tov. On dit le nom, la réputation, c'est mieux encore que l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est on a été distingué, etc. Quelqu'un est distingué. Mais une bonne réputation, ça c'est le summum de. On dit que c'était quelqu'un de bien. Voilà, ça c'est le summum. Voilà. Ça veut dire qu'on a que de l'existence à dégager quelque chose de qui rapproche d'Hachem.
Voilà. C'est comme tout, les définitions qu'il donne le Maharal, c'est de dire que... C'est genre,
l'idolâtrie.
Et celui qui fait Chilul Hachem, c'est comme s'il n'a pas de Dieu, et celui qui fait Avodah Zarah, il se fait un Dieu. Mais je dis que celui qui fait Avodah Zarah, Dafka, c'est lui.
Ni Dieu. Non, parce que Avodah Zarah, quelque part, Avodah Zarah, et tu vois, comme on a déjà dit mille fois, que l'idolâtre, il ne nie pas qu'il y a un créateur. L'idolâtre, il dit que le créateur, il n'agit pas dans ce monde-ci. Il sert des forces. Il ne dit pas qu'il n'y a pas une force originelle.
Ou il dit que c'est un autre qui a cette force-là.
Rambam explique que l'idolâtre, ça veut dire qu'il pense que le Dieu créateur, il s'est retiré, il ne fait rien sur terre, donc, et qu'il a délégué à des forces.
Ouais. Ça, c'est une sorte d'idolâtrie, ça peut être...
C'est la base de l'idolâtrie, comme ça il dit Rambam, au début des Halakhot d'Avodah Zarah.
Je reprends le bouddhisme parce que c'est très fréquent aujourd'hui, quoi.
Oui.
C'est la mode, mais le bouddhisme, par exemple, ça ne rentre pas dans ce Rambam.
Ouais, c'est vrai, le bouddhisme...
L'intermédiaire.
Ou alors le bouddhisme, c'est autre chose. Le bouddhisme,
il
y a un dieu créateur, hein, le bouddhisme.
Ouais. C'est une sagesse orientale qui a beaucoup de... Aujourd'hui, qui a plus de succès que les religions monothéistes standards.
Transcendantales. Ouais. C'est le contraire de la transcendance. Tu as raison. Ah, c'est le bouddhisme. Est-ce que c'est au niveau légal, est-ce que c'est halakhique, est-ce que c'est Avodah Zarah?
Je sais pas. Moi, je me dis, il y a une Ishtahavaya, il y a une Akrava, il y a tous les dinim de la Avoda devant un. Il y a un culte.
Non, mais il n'y a pas un culte à Bouddha. Bouddha, c'est un sage. C'est un modèle, ouais. Si je ne m'abuse. Hein, ouais, Bouddha, ils ne font pas un culte à Bouddha. Monsieur, grand spécialiste.
Non. J'ai vu, quand j'étais allé à Java il y a des années, bon, les temples hindouistes.
Ah, hindouistes, c'est autre chose.
Mais il y a aussi des temples bouddhistes. Bah, j'ai quand même vu que...
Non, c'est sûr, nos amis les Chinois en bas de chez nous, là, dans leur épicerie, il y a un Bouddha, ils mettent devant des pommes et des oranges. Mais bon, ils font ça, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils vont vraiment bien t'expliquer qu'est-ce qu'ils font. On fait comme ça dans nos familles, comme ça ils vont dire, ça mène la bracha.
C'est leur mezouza.
Ça mène la bracha. Mais vraiment, le pourquoi du comment, mais je ne crois pas que c'est à Bouddha qu'ils offrent. Hein. Papa, hein, je sais pas, on va faire une autre enquête. Monsieur, là, Wikipédia,
oui,
nous, est-ce que quand ils mettent, est-ce que les bouddhistes, ils offrent des choses à Bouddha?
Bah oui, ils font des offrandes, ils mettent du parfum, de l'eau parfumée, ouais. Des fruits.
Oui, d'accord, mais est-ce que c'est à Bouddha qu'ils l'offrent?
Non, des fois, c'est pas directement à Bouddha, c'est peut-être un vieux sage, une figure du bouddhisme qui sert
d'intermédiaire, voilà, d'intercesseur.
C'est d'énergie.
Voilà, ouais. Bon, ok, continuons. Bien nous d'avarzé, benetiv atchouva gamken aincham achomer mishechatabaz. Mais perek sheni de Chagiga, deuxième chapitre de Chagiga. Alors, je vais chercher la Gemara, hein, Chagiga, je vais chercher là-bas.
Interruption du son et de l'image. On est prêt pour ce soir?
Ouais. Alors, je sais pas, on était à 188, je crois.
188 qui ont...
Personne. qui ont inscrit.
Ils ont payé?
Pas tous, mais...
Pour en faire cracher jaune.
Non, ça va pas le faire, on est au même niveau que l'an dernier. Quoi.
Il n'y a pas de rabbinique qui sont venus.
Alors, ouais, non, on a une possibilité, mais.
Yes.
Et voilà. Tetzaïn, Amoud Aleph dans Hagiga. Tetzaïn, Amoud Aleph. Bien. Alors, la Mishnah, regardez, Kol Shelochas al Kovod Kono, Ratulo Sheloba Leolam.
Quoi, c'est combien là? Non, c'est Tadvar.
C'est Mot Katan, tu es.
Attends, Tetzaïn. Oh là 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 là.
Hagaga, c'est après.
Ah, c'est Mot Katan.
Pas, dis-moi, Hagiga, dis-moi, ça. Tu peux prendre un speedan là ce matin là, tu nous as endormi là, mec. Les enfêtes. Alors une seconde. Bon, regardez, c'est pas trop pour les bébés. On va voir, hein. Philippe Parizet, là.
Yes.
Je sais pas, c'était. Regarde, cinquième ligne, là.
Cinquième ligne, oui.
C'est bon. Cinquième ligne, large.
Je suis bien en Hagiga, oui. Tête Zahine, oui.
C'est bon. Kol Shelochas.
C'est ça. C'est la Mishnah, là.
Enfin, ici, c'est la Mishnah.
Alors.
Kol Shelochas.
C'est où ce
terme-là?
Oui, des bourrins. Des bourrins.
Des bourrins.
Des bourrins.
Kol Shelochas.
Ah, il est collé. Ah oui.
Là.
On va demander des subventions à Agnès Buzyn pour la réinsertion des handicapés, hein, les mecs. Au lieu de faire un gala à la con, je vais demander à Agnès Buzyn des subventions, ça va. On fait dans le social, là, ce matin. On y va. Kol Shelochas.
Allez, c'est là.
Al-Kavod Kono. Ratulo Sheloba Leolam. Toute personne qui n'a pas pitié sur la gloire de son Créateur, il aurait été préféré pour lui qu'il ne soit pas venu au monde. Donc là, si vous voulez... Celui qui n'a pas pitié, c'est-à-dire de ne pas faire honte à la gloire de Dieu. Et à la gloire de Dieu. Et quelqu'un, ça ne le dérange pas de porter atteinte à la gloire de Dieu. Ça ne le dérange pas.
Il a pitié, mais...
On doit prendre à cœur la gloire de Dieu. Quelqu'un qui ça, il a pas ça, ça, ça lui fait pas mal de porter atteinte à la gloire de Dieu. Eh bien, il vaudrait mieux qu'il soit pas venu au monde. Ce serait été accent circonflexe préférable pour lui. Ça, c'est la Mishnah qui est rapportée ici. Maï, c'est quoi? C'est quoi celui qui n'a pas pitié sur la gloire de Dieu? Rabbi Abba Amar, Rabbi Abba dit, Zéa Mistakel Bekeshet, c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que Dieu ne détruit pas le monde. Après, c'est-à-dire, il y a eu le déluge, et il a dit, voilà, je ne remettrai plus le déluge. Et le signe, c'est de cette alliance, c'est-à-dire qu'il y a la pluie qui tombe, mais en plein milieu de la pluie, toc, il y a le soleil, pour montrer que j'arrête le déluge. Mais en vérité, parce que j'ai promis, si ce n'avait pas été cette promesse, le monde devrait être détruit. Donc tu regardes, oh, comme c'est beau, c'est pas beau. C'est à cause de tes fautes qu'il aurait dû y avoir de déluge. Donc tu devrais être honteux qu'il y ait le déluge. Et on dit, d'ailleurs, la Gemara nous dit, qu'à l'époque des Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas eu l'arc-en-ciel, Parce que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, le monde avait son but en soi, et il faisait que les fautes de la génération étaient secondaires. Donc il n'y avait pas le délu, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Ça, c'est la première explication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui n'a pas d'égard sur la gloire de Dieu? Deuxième explication, Rav Yosef dit, Zé over avera beseter, c'est celui qui fait une faute en cachette. Celui qui n'a pas d'égard à la gloire de Dieu, c'est celui qui fait une faute en cachette. C'est-à-dire que il a peur des hommes, mais Dieu, non. Ouais, c'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un, il a l'air bien comme ça, maintenant, quand on le voit pas, il regarde des trucs bizarres sur Internet, tranquille. Il n'est pas vu, pas pris, d'accord, mais... Donc là, il fait comme si Dieu n'était pas là, puisque qui c'est qu'il voit ? L'œil était dans la tombe. Il regardait
Jean Cocteau.
Quoi ?
Je me suis trompé.
C'est Victor. Mais j'aurais ça pu que ça existait, Victor Hugo. Il croit que c'est une avenue dans le 16e. On y va. Alors, là-dessus, ils vont apporter des preuves pour l'un, des preuves pour l'autre. Mistakel Bakeshet, celui qui regarde le Keshet, donc il a pas d'égard à la gloire de Dieu. Comme dit le verset Noé Reskel, Kemare a Keshet, Ashir Be'anan, Be'yom Ageshem, Ken Mare a Nogas Saviv, ou Mare de Mout Kevod Hashem. Alors, l'explication qu'il donne n'est pas du tout l'explication que j'ai donnée. Vous pouvez remarquer que moi, j'ai moins un. Comme la vision de l'arc-en-ciel qui est dans le nuage le jour de la pluie, ainsi est le marais, l'aspect de la gloire de Dieu autour, qui ressemble à la gloire de Dieu. Donc, c'est quelqu'un, en vérité, il y a quelque chose qui donne un aspect de la gloire de Dieu. Il regarde ça comme si c'était joli. Mais tu devrais avoir un petit peu peur de ça, puisque c'est une vision grandiose. Vision grandiose. On voit quand Moïse, il a vu le feu dans le buisson, il a caché son visage de par honte. Voilà. Et là, il regarde là comme ça, tranquille. C'est la part... C'est un dévoilement de la gloire de Dieu, quelque part.
Dans la parasha de la semaine, là, avec Nadav et Avihu, quand c'est marqué, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont contemplé...
Ils ont regardé la gloire de Dieu. Ouais.
C'est là,
ils se sont rendus condamnables. Ouais. On continue. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit, celui... qui n'a pas des gloires à la gloire de Dieu. Zé over avera beseter. C'est celui qui fait une faute en cachette. Kede Rabbi Yitzhak. Comme dit Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak. Kola over avera beseter. Ke ilu dochek ragle shechina. Tout celui qui fait une faute en cachette, c'est comme s'il repoussait les pieds de la présence divine. Rashi. Keilu dochek ragle ashechina, Omer belibo en ashechina kan. Il dit dans son cœur, il n'y a pas la présence divine ici, veketiv. Or c'est écrit, la terre est la résidence des pieds de Dieu. Adom raglay, la résidence des pieds. Shenema, comme dit le verset dans Ishayahu, Ko amar Hashem, Hashamayim kisi varetz Adom raglay. C'est une haftara. C'est l'haftara de quand, ça? Une fraise tagada.
Ça, c'est Rosh Chodesh.
Ah, il a dit plus vite. Hein.
Oh.
Mais toujours pas avec nous. Hein.
Attends, c'est où le
vrai? Ah, si, arrête, c'est moi. C'était ma haftara à moi de Barbara. C'est quoi Rosh Chodesh?
Alors, c'est Shabbat Rosh Chodesh. Donc, ainsi a dit l'Éternel, les cieux sont mon trône, et la terre, Adam Raglaï, c'est-à-dire le petit banc où il y a... Comment ?
Marche-pied.
Le marche-pied. Et la terre est mon marche-pied. Ini, je ne suis pas d'accord. Vama Rabbi Ila Azaken. Je ne suis pas d'accord. Mais Rabbi Ila Azaken, l'ancien, dit... Imroé Adam chez Yetzro Migadber Alav, Yeler le Makom chez Makirimoto, Vilba Shrorim, Vitatev Shrorim, Viasse Mashibur Hafetz, Valichalet Shem Shamaim Befarasia. Bon, alors là, c'est ce que j'ai dit, attention, c'est pas pour les. C'est pas pour le Gan Aleph ni Gan Bet. Donc toi, tu as dit que qu'est-ce que ça veut dire celui qui fait une faute en cachette? Alors, il aurait mieux, il aurait été préférable qu'il ne soit pas venu au monde. Parce qu'il a, c'est ça ce qu'on doit faire, nous, dans, dans notre vie, c'est faire attention à la gloire de Dieu. Or, lui, il repousse la gloire de Dieu. Mais il y a Rabbi Ila le grand, il dit, l'ancien, il dit, si un homme voit que ses pulsions sont trop fortes pour lui, qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas, qu'il s'habille de noir, qu'il s'emmitouffe de noir, et qu'il fasse ce que son cœur désire, et qu'il ne profane pas le nom de Dieu en public. Donc ça veut dire, si quelqu'un voit que son Yetzerara est trop fort, et qu'il va fauter, alors, qu'il ne reste pas ici dans le 19e parce que tout le monde le connaît, qu'il se casse de Sarcelles parce que tout le monde le connaît.
Scandale.
Ouais, ça va être un scandale. Et qu'il aille, je ne sais pas moi, qu'il aille à Plougastel.
À la Roche-Migène.
Qu'il aille à la Roche-Migène, c'est vrai, la Roche-Migène. Qu'il aille à la Roche-Migène, ouais. Et là, il n'y a personne le connaît. Et qu'il s'habille en noir, qu'il s'emmitouffe de noir, et qu'il fasse ce qu'il a à faire, et que comme ça, il aura profané le nom de Dieu. Donc tu vois ici que c'est un appel qu'il fasse la faute en cachette, quoi. Donc tu vois que c'est toléré quelque part de faire une faute en cachette. L'essentiel, c'est qu'il ne profane pas le nom en public. Mais à la limite, une faute en cachette, qu'il la fasse. Sinon, on aurait dit que dans aucune circonstance, c'est inimaginable, inenvisageable qu'il puisse voter en cachette. Or là, Rabbi Ila, l'ancien, dit que oui. Regardons Rashi. Les Makom chez le Makirimoto, un endroit où on ne le connaît pas, Endato Gassa Alav. Donc il s'exile. Donc là, il perd sa superbe. Sa pensée n'est pas orgueilleuse sur lui. Shema Yekel Kohar Yetzro. Peut-être que le Yetzerra va être allégé. Vegam Yichate. Et même s'il faute, En Adam Noten Lev. Personne ne va y porter son attention. Le fils Eno Chashu Benem. Parce qu'il est considéré comme un pauvre type. Vechen, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Vechen, ben la bouche chorim, de la même manière, s'il habille avec des habits noirs, c'est pas quelqu'un qui a un super costard, quoi. Il a des habits sombres, on est dit, bon, tiens, c'est un clochard qui fait des bêtises. Bon, c'est pas un clochard qui fait des bêtises, c'est pas bien grave. Voilà. Quand, s'il est chez lui, que tout le monde connaît, et que là, c'est une profanation du nom. Donc c'est envisageable dans certaines circonstances. Alors on lui conseille d'aller dans un endroit. Peut-être le fait de s'exiler va relativiser ses pulsions et va alléger qu'il ne faudra peut-être pas.
C'est ce que dit Tosfot, apparemment.
Ouais, c'est ce que Tosfot dit, on va faire Tosfot. Veyase Machelibo Chafetz. Alors, les gamrés, machma, qui fassent vraiment des moutaves l'eau, la dame, chez assez, chefso, beseter, belov et pharasia. Donc, le sens simple de la Gemara est qu'il faut en cachette, mais surtout pas en public. Donc, ça veut dire que ce serait envisageable. Vélo qui pirèche Rabbeinu Hananel, mais pas comme Rabbeinu Hananel de Shilai, Pirekama de Kilushin, d'Af même dans le traité Kilushin, des pirèches. Chazve Shalom, Shaya Matir la Sotavera. Rabbeinu Hananel, Rabbeinu Hananel, lui, donc c'était, on n'est plus à Alger, là on est à Kérouan, hein, vous savez, comme chacun sait. Comme chacun sait, bien. Non, je ne sais pas. Rabbeinu Hananel. À Kérouan, Kérouan, c'est en Tunisie. Ouais. Il y a 1000 ans environ. Alors il dit, explique, Razvé Shalom. Non, il ne faut pas comprendre ces Gemara qu'on lui dit qu'il fasse sa faute. Non. Mais on dit, il va Shrorim, qu'il s'habille en noir. Il y a Al-Makom Acher, qu'il s'exile. Il le visage Shrorim. Varnesaot, me chabrim les beaux. Parce que le fait d'être habillé en noir et de chercher un hébergement, ça va le briser. Velo yavo le davera. Deyochal la sot ma meharchav ma shelibo chafetz. Alors, il pourra faire ce qu'il veut. De en yetzro mitgaber alav. Donc, ce qu'il veut, ça veut dire sans être embêté par le yetzerara. Vesuga de shmata eno mashma kedvarav. Ou. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Obirech perek batra de boet katan. De la même manière, d'Afyudzain dans boet katan, il y a le copier-coller de cette Gemara, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Ce qu'on dit, il vaut mieux. Ça veut dire que quelqu'un, il voit qu'il ne peut pas faire autrement, alors qu'il parte à un endroit où on ne le connaît pas, et que ça ne fera pas une profanation du nom, parce qu'on ne sait pas qui c'est, ce n'est pas quelqu'un d'important, et il vaut mieux qu'il fasse sa avéra. Donc on voit, si Bémet, c'était le pire de faire une avéra, mais c'est terre. Ce serait inimaginable, comme Rabbeinu Hananel nous le dit. Mais dans l'économie du texte, ça n'a pas l'air comme Rabbeinu Hananel, que oui, c'est envisageable qu'il le fasse. Réponse de la Gemara. La kasha, ce n'est pas une question. A des matzi kaif le yetzre, a des lo matzi kaif le yetzre. Quand est-ce qu'on dit qu'il aille au loin, qu'il s'exile et qu'il fasse ses fautes en cachette et pas en public, c'est quand il ne peut pas dominer ses pulsions. Des matzikev le yetzre, par contre, s'il peut dominer finalement ses pulsions, ou botear al sheu nirbe beseter, et que lui il se dit, il peut dominer ses pulsions, il dit bon ben, mais comme personne ne me voit, c'est pas grave, là c'est grave, parce que là, il repousse les pieds de la présence divine. Voilà. C'est que... Donc c'est clair, la structure du texte, c'est qu'il y a quelqu'un, il a des pulsions qui le prennent. Il a des pulsions qui le prennent. Ça peut arriver, et qu'il ne sait pas gérer ça. Et... Il. Si ça lui est impossible de dominer ses pulsions, alors surtout qu'il le fasse en cachette et pas en public. Mais si il peut dominer ses pulsions et se dit bon, c'est pas grave, personne ne me voit, ça c'est gravissime. Voilà. Okay. Alors ici, dans cette Gemara, il y a envisagé. Une dimension incroyable,
ouais, c'est fou.
Que quelqu'un pourrait ne pas dominer ses pulsions.
Ne pas pouvoir.
Fifi, là, oh, reste avec nous, là. Le Tchoulent, là, il était lourd, là. Oh.
Parce que, enfin, le discours, c'est pas ça. Le discours, c'est de dire, écoute, travaille-toi, Trazek.
Mais il travaille, il faut travailler. L'énergie pour travailler. Bon, ça c'est une Gemara très très particulière. Très 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 particulière. On On va voir qu'est-ce qu'il dit le Maharal.
Pourtant, on dit qu'il n'y a aucune... Tout le temps, on dit dans la pensée, comme ça, populaire, on dit que toute épreuve qu'on reçoit, on reçoit l'énergie pour surmonter. Ah oui.
Tu regardes trop Internet.
Là. Ouais, non, mais les gens s'écroulent, on dit ça, mais finalement, on voit que c'est pas forcément...
Je vais vous dire, moi, j'ai eu l'expérience de ça, je peux vous dire. J'ai l'expérience de ça. Quand il y a, disons, il y a 12 ans, 13 ans, je ne sais pas quoi, il y a eu le début d'Internet. Et bon, Internet, bon, ça veut dire, tu vas chercher ton billet de train, tu vas, je sais pas, acheter... vous avez vu quelle bénédiction on fait sur quelque chose qui a été acheté sur Internet? Le Katamaza. C'est très bon ça. Voilà, t'achètes, je sais pas, des chaussettes à la Redoute, voilà, sur Internet, tout va bien. Et tout d'un coup, je me suis trouvé regarder des choses que je voulais pas voir. Et c'était moi qui l'ai fait. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais confronté à un truc comme ça. Première fois de ma vie que j'étais confronté à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et ça, ça m'a beaucoup perturbé. Beaucoup perturbé. Bon, après, il m'a fallu du temps pour trouver des stratégies pour arrêter. Pour trouver des stratégies pour arrêter. Mais il y a des choses, on voit d'ailleurs dans la Torah, que c'est un grand thème, chez les Mekoubalim, et les Chassidim, Rabbi Tzadok HaKohen particulièrement. C'est un grand thème de Rabbi Tzadok HaKohen. Que Yehuda, les Chachamim disent, et c'est prouvé des versets, va yet à l'avaderer. Le chemin s'est forcé pour lui, il ne voulait pas aller avec Tamar. Yehuda, c'était un type bien. Oh, Fifi, là, qu'est-ce qui t'arrive ce matin?
Je bois tes paroles.
Ouais. Alors, le Yehuda. Donc c'était un prince, hein, Et il voit Tamar. Enfin, il la reconnaît pas. Et qu'est-ce qu'il a? C'était pas du tout son problème. Mais les Chachamim disent qu'il a eu une pulsion qu'il n'a pas pu contrôler. Et il est allé avec elle. Bon, finalement... Là, le Mashiach, c'est les ascendants, c'est Peretz, l'ascendant du Mashiach qui va naître de cette union. Okay. Et Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, lorsque Shlumiel ben Suri Shaddai, c'est-à-dire celui qui était avec Cosby Batsour,
Zimri
ben Salou, qui était en vérité Shlumiel ben... Suri Shaddai, le prince de la tribu de Shimon, lui disait, moi je suis comme Yehuda. Il ne pouvait pas se retenir. C'était faux, il pouvait se retenir. Mais il disait qu'il ne pouvait pas. C'est-à-dire, quelle est la limite qu'on peut ou qu'on ne peut pas? Mais il y a des choses, par exemple, il y a un maître important qui est décédé il y a un an et demi, deux ans. C'est Rav Nosson Shulman. T'as entendu parler de Rav Nosson Shulman? Rav Nosson Shulman, c'était le fils du Rosh Yeshiva de Slabodka. Son père, c'est Rav Mordechai Shulman, qui était un copain du Chazon Ish. C'est lui qui a créé la Yeshiva Slabodka à Bnei Brak. Et son fils, Rav Nosson, était, comme son père était vieux, c'était lui le Rosh Yeshiva officieux. L'Yeshiva Slobodka pendant des années. Quand son père est décédé, il est parti de l'Yeshiva. Après, il est allé à Strasbourg. Moi, avec mon épouse, lui et sa femme, on les a très bien connus. Et lui, donc, il est né en Lituanie. On a beaucoup discuté. beaucoup écouté, comme ça. Il y a 100 ans, il y avait le communisme. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'était le communisme. On ne sait pas qu'est-ce que c'était le communisme. Tu dis à quelqu'un, il est communiste, tu le regardes, tu lui donnes une aspirine, tu lui dis... ça n'existe plus. C'est un communiste, c'est une maladie sénile, quoi. Ça n'existe plus. Mais ceux qui ont connu cette période, tout ce que j'ai entendu, c'est que quand Trotsky, Rosa Luxembourg, allait à Vilna, à Brest-Litovsk, les yeshivotes se vidaient, et les yeshivotes se vidaient, ils devenaient tous communistes. C'était une pulsion qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. On ne peut pas savoir. C'était des pulsions. C'est des pulsions incroyables. C'était comme pulsionnel, tu vois. C'était invraisemblable. Et c'était...
Est-ce que c'est vraiment de la pulsion à ce niveau-là ? C'était un véritable espoir qui soulevait, mais est-ce qu'on peut parler de pulsion pour...
C'était un mouvement de masse, c'était un mouvement de masse.
Oui, c'était mouvement de masse, d'accord, mais est-ce que ça repose uniquement sur de la pulsion ?
C'est quelque chose qu'il attend en l'homme, d'être ouvert à un élan nouveau, à un renouveau.
Oui, c'est vrai. C'est pas une pulsion. Non, mais ils étaient éduqués traditionnels. Ils étaient à l'Eshiva.
Il y a une partie de l'esprit qui est toujours en éveil de quelque chose de nouveau.
Oui, bon, mais c'est... C'est vrai, mais non, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à résister à ça. Ils n'arrivaient pas. Ceux qui résistaient à ça étaient extrêmement minimes. De la même manière, dans les mêmes milieux ou dans d'autres milieux là-bas, le sionisme a été... C'était aussi pulsionnel. Alors toi, tu dis que ce n'est pas des pulsions. Mais quelque part, tu n'as plus de choix, si tu veux. T'as pas libre arbitre, voilà, c'est ça.
C'est une impulsion, c'est une impulsion.
Oui, peut-être. Oui, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, t'es confronté à certaines choses. C'est comme, par exemple, l'alliance israélite qui est arrivée en Afrique du Nord, au Maroc, etc. Les gens étaient très très pauvres, étaient d'une pauvreté incroyable. On leur dit, voilà, maintenant vous allez apprendre le français, vous allez prendre Corneille et Racine et machin. Ça faisait plus le poids. Je veux dire, c'est on leur dit, oui, il faut continuer à dire Tehilim. Laisse tomber. Les gens n'avaient, quelque part, pas de libre arbitre. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle pulsion, si tu veux, c'est un t'as pas de libre arbitre. Tu peux dire, stop. Pas stop.
C'est ce qu'on vit maintenant.
Comment ?
Ce qu'on vit maintenant, avec la jeunesse qu'on a, la jeunesse qu'on a maintenant, elle a ce dilemme aussi, avec Internet et...
Alors voilà, il y a une pulsionalité, là, c'est plus pulsionnel, là, c'est plus pulsionnel, c'est pas tellement intellectuel. Aujourd'hui, il n'y a pas...
On parle d'addiction.
Aujourd'hui, c'est pas intellectuel, aujourd'hui, c'est vraiment plus pulsionnel. C'est plus pulsionnel.
C'est addictif, donc c'est...
Voilà, c'est plus pulsionnel que... Que là,
sur ces mouvements, le communisme, il y avait quand même une réflexion derrière. Ça apprenait tout le monde, mais il y avait quand même.
Une dialectique.
Je sens les crypto-communistes là avec moi, debout les damnés de la terre là. Il est encore pas sevré de son crypto-communisme. Il entend l'international, il pleure là, d'émotion. Non mais c'est vrai que il y a quelque chose d'émotionnel dans le communisme. Moi, je me souviens quand j'étais, c'était l'année de ma bar mitzvah, quand j'ai lu le programme du Parti communiste de Marx et d'Engels, j'ai été bouleversé. Il y a quelque chose de bouleversant. Mais... Il est encore bouleversé. C'est un grand sentimental. Regarde-moi. Non, mais dans chaque Avodah Zarah, t'as quelque chose de vrai. T'as quelque chose de... Mais...
Ah, c'est ça qu'ils ont idolâtré, c'est le courant, c'est le Kortov Shelemet.
C'est sûr qu'il y a un côté aussi intellectuel extrêmement fort. Pour ceux qui ont lu du Marx ou du Lénine, etc., il y a un côté extrêmement intellectuel très très puissant. Mais bon, c'est... Maintenant, tout ça pour dire qu'il y a des choses où tu perds ton libre arbitre. Alors c'est ça ce que la Gemara dit, elle atteste. Elle atteste que il y a un très grand, on a dans la bibliothèque des livres d'un très grand rav qui s'appelait Rav Malkiel Tenenbaum, qui était rav d'une ville en Pologne qui s'appelle la ville s'appelle Lomje. Le Rav Malkiel Tenenbaum, il a écrit des Shelot et Tshuvot, des responsables qui s'appellent Divrei Malkiel, en quatre tomes qu'on a à la bibliothèque, dans toutes les bibliothèques des Tshuvot, et Divrei Malkiel. Une fois, j'ai lu dans un livre, il devait parler, c'était le Rav de la ville, et c'était Yom Kippour, il devait faire son discours de Yom Kippour, et il a dit, voilà, on me demande de faire le discours de Yom Kippour, je ne peux pas faire le discours de Yom Kippour, mon fils est devenu communiste. Et il a éclaté en sanglots, il dit « j'ai rien à dire ». On n'a pas l'idée qu'est-ce que c'était. On n'a pas l'idée, aujourd'hui, on n'a pas l'idée qu'est-ce que c'était. Il y a un livre d'Henri Minzeles qui est écrit sur le Bund. Je ne sais pas, vous connaissez le Bund ? Tu l'as ce livre, je pense, hein, non ?
Non,
Minzeles, non. Un gros pavé sur le Bund. Le Bund, aujourd'hui, tu vois, tu dis le Bund, j'ai entendu parler du Bund. Le Bund.
La révolte du Bund.
C'est une contraction. Le Bund, non mais c'est énorme aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le Bund. Le Bund, c'était un mouvement d'émancipation juif, c'était entièrement yiddishisant, c'est d'être des gens émancipés de la religion. La religion, ça nous enferme dans un esprit servile. Ouais, un esprit servile. On va se lever, on va prendre notre destin en main, on va être des hommes, et il n'y a plus Dieu.
Voilà. C'est un grand communiste. C'est ça qui a entraîné toutes les masses.
Tu vois, rien que je dis, tu vois, t'as vu, t'as aimé, non? T'as aimé? Non, c'est bien, non? Et il faisait. Alors, le drame, le Bund, ça n'est que d'un drame, parce que au départ, c'était donc, comme tu dis, c'était des communistes. Et ils ont été persécutés jusqu'au dernier par Staline, parce que c'était un mouvement dissident du communisme léniniste. Et ils ont été. Tous ces juifs-là, c'est un mouvement juif, émancipateur. Parce que lui, les staliniens et les léninistes, ils étaient universalistes, pas spécifiques. Tandis que là, c'était un mouvement national juif. Et donc, ils ont tous massacrés, ils sont tous terminés au goulag. C'est un drame, c'est un vrai drame. Tous ces mouvements d'émancipation, c'est terminé dans les massacres. Ça fait vraiment méditer. Et aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce que c'est. Mais le Bund, tu vois, par exemple, là, il y a des cercles encore yiddishisants ici à Paris, à Nancy, dans ma ville, Nancy, qui a le 55 rue des Ponts, c'était le centre du Bund. Il y a encore des juifs Bund, style Bund. Voilà.
Le sunnisme laïque, c'est pas une
comment
branche. Le sunnisme laïque, c'est pas voilà, qui est né dans l'Europe de l'Est assimilée, c'est pas une branche.
Non, c'était communiste. Ils étaient pas sionistes, ils étaient anti-sionistes. Mais c'était le extrêmement puissant. Le Bund, c'était terrible. Ils faisaient pas Yom Kippour, ils étaient contre faire Yom Kippour. Des fils de Rabbanim. Des fils de Rabbanim.
On est à quelle époque là?
Quoi? C'était il y a 120 ans. 1900. Ouais, ça a duré.
Juste après la révolution.
Voilà, voilà. Jusqu'à ce qu'il soit massacré par Staline. Mais le, si vous avez le moral, le livre de Minzeles, c'est tout un pan de l'histoire juive qui aujourd'hui est absolument inconnu. Mais tout ça pour dire que c'était extrêmement puissant. Ici, alors ici, il y a une réflexion que Rabbi Tzadok HaKohen relève. C'est que des fois, il y a des choses auxquelles on est confronté qu'on n'arrive pas à dominer. Par exemple, moi, quand j'étais confronté à cette histoire d'Internet, où jamais de ma vie j'ai fait un truc que je veux pas faire. Je veux pas le faire, je le fais. Je veux pas, je le fais. Je veux pas. Je veux pas. Et toi, je vais regarder. Bon, Baruch Hashem, j'ai trouvé des stratégies pour ne plus être confronté à ça. Chacun doit trouver ses stratégies. Je dis pas que la mienne elle est bonne pour les autres, donc je vous dis pas ma stratégie. Chacun doit trouver ses stratégies. Mais quand j'étais confronté à ça, j'ai dit, mais j'ai jamais vécu ça. Rabbi Tzadok HaKohen, il rapporte la Gemara dans Yoma qui dit, celui qui fait tshuva, il amène Geoula Leolam, il amène la délivrance dans le monde. Et après, en quoi faire tshuva amène la délivrance dans le monde? Parce qu'il dit que parfois, il y a des fautes, c'est des fautes. Chaque génération.
Bonjour. Je peux le servir?
C'est pas à nous.
Chaque génération a ses problématiques. Chaque génération a ses problèmes. Le problème, on a dit il y a 100 ans, c'était le communisme, je ne sais pas quoi, l'universalisme, je ne sais pas quoi. D'accord, ça c'était leur problème. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre en quoi c'était un cataclysme. Aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît de la rigolade. C'était pas de la rigolade. Mais aujourd'hui, on a d'autres problématiques. Et ces problématiques sont tellement fortes, qu'on peut pas faire le choix sur certains points. On peut pas, c'est trop fort. Et si quelqu'un, il arrive à faire tshuva, il amène la délivrance, parce que c'est pas lui-même qui se sort de ce problème. Il sort toute sa génération de ce problème. Il y a des problèmes qui sont, si vous voulez, nous, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un, il est juif religieux, mais les huîtres, il aime. Les huîtres. Il peut pas, il est religieux, il achète glatte à hyper cachère, il ouvre le congélo là, il sort le poulet hyper cachère, voilà. Tu prends toi l'ashgacha de pavé? Non, il faut pas répondre à mes conneries.
C'est un piège.
Je sais pas où vous voulez en venir.
Il est endormi ce matin, il faut pas répondre à mes conneries. Bon, le mec, tu vois, il prend le poulet Hercher comme Maxime Benita, tu vois, d'accord? Ouais, d'accord, bon. Tout glatte, machin, Chalak Bet Yosef. C'est bon, Chalak Bet Yosef? Il prend Chalak Bet Yosef, il prend le vin, Rottenberg, machin, la moutarde, Bornibus, ok, glatte, d'accord, bien. Par contre, quand il y a les cahiers, personne ne le sait, il demande à les cahiers, livre-moi là des petites huîtres. Il ne peut pas s'arrêter. Ça, on pourrait dire, c'est son problème. Son problème, qu'il fasse des efforts. Ouais. Peut-être dans 10 ans, il arrivera à surmonter son problème. Ok, c'est son problème. Ok, c'est... Mais il y a des choses, le chidouche, il y a des choses, ça ne demande pas qu'un effort personnel. Ça, c'est... Il y a des choses, c'est pas que son effort personnel. Ça, excusez-moi.
Il maîtrise ça, il maîtrise son gouffre avec son cerveau. Donc là, dans les pulsions, c'est le gouffre qui parasite le cerveau. Et que tu ne peux pas. Tu es dans un esclavage. Un esclavage de.
La tête n'a pas de prise. T'as des gens, ou alors après, ils vont justifier ce qu'ils font.
Ah oui,
ils vont justifier.
C'est la mauvaise foi.
Après, ils vont justifier. Non, mais c'est la mauvaise foi, mais des fois, c'est subtil. Des fois, c'est subtil. Des fois.
C'est la mauvaise foi.
Mais l'innovation. L'innovation, c'est que des fois, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Mais il y a des choses, ça c'est ce que c'est le livre de Rabbi Tzadok HaKohen qui s'appelle Takanat HaShavim. Takanat HaShavim, la réparation des fauteurs. Ça c'est un chef-d'œuvre. Takanat HaShavim. C'est un chef-d'œuvre. C'est un livre de Rabbi Tzadok HaKohen.
Il faut qu'il ne soit pas traduit en français.
Ouais, ça sert à rien. C'est tellement touffu. Peut-être on pourra faire à l'occasion quelques passages. On avait déjà fait, je crois, une fois un passage. Oui. Que sur ce point-là, pour moi, ça a été vraiment une innovation. Qu'il dit, quelqu'un, quelque part, il ne peut pas faire tchouva. Parce que c'est la problématique de sa génération. Et s'il fait tchouva, alors, s'il fait tchouva, si la personne exceptionnelle a la capacité de faire tchouva, elle fait faire tchouva toute sa génération. C'est ça, il amène la Géoula.
Oui, parce qu'il a fait une brèche. Il a fait une brèche dans l'esclavage général.
Général.
Voilà. Il a fait une brèche, lui il a fait un truc, lui tout seul.
C'est l'inverse, en général, en général c'est dans
voilà, en général c'est le contraire.
Il y a, du bien, il y a une brèche de mal, et là il a réussi à faire une brèche
dans le bien. Et donc, et donc la dépendance, tout le système de dépendance et d'addiction est mis en brèche en quelque sorte par l'action de ce mec-là.
Alors ça,
elle n'est plus infaillible. Elle est née ou c'est des gens qui portent...
J'en sais rien.
Elle n'est plus infaillible. Cet esclavage n'est plus infaillible.
Voilà.
Il a réussi.
On en avait parlé quand on avait fait la Netiva Tshuva. On avait parlé déjà de cette problématique. On avait déjà... Bon, regardez, là, je dois passer à mon deuxième étude. Hein, merci. Et à ce soir, hein, bal masqué, ce soir, hein, les mecs.
Avec le chéquier.